From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Voici la session du dimanche matin de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, en cette magnifique journée de printemps. Thomas Monson, qui préside cette session, m'a demandé de la diriger. Nous adressons nos salutations aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Saint en avant, armé de foi en Christ » et interprétera à présent « Vivons ce bonheur ». Neil Marriott, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera ces mots d'amour.
Thank you. Notre cher Père Céleste, nous nous réunissons avec beaucoup de joie à cette conférence générale et nous te remercions pour ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et son Évangile rétabli. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète, Président Monson, et tous ceux qui sont avec lui. Et nous te demandons, Père, de les bénir. Nous prions pour ceux qui vont chanter, parler, s'adresser à nous, qui vont offrir leur témoignage, que nous puissions ressentir le Saint-Esprit. Puisse notre foi au Sauveur augmenter. Puissions-nous nous aider les uns les autres à retourner auprès de toi. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète, Thomas Monson. Il sera suivi de Joy Jones, qui a été soutenue comme présidente générale de la primaire en avril 2016. Après Sir Jones, nous entendrons Yun Wan Choi, des 70, puis Ronald Rasband, du Collège des 12 apôtres, s'adressera à nous.
Mes chers frères et sœurs, je vous salue très chaleureusement, alors que nous voici de nouveau réunis en une grande conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Avant de commencer mon discours aujourd'hui, j'aimerais annoncer 5 nouveaux temples qui seront construits aux endroits suivants: Brasilia au Brésil, Grand Manille aux Philippines, Nairobi au Kenya, Pocatello en Idaho et Saratoga Springs en Utah. Ce matin, je parle de la puissance du Livre de Mormon et du besoin crucial qui est le nôtre, en qualité de membre de cette Église, d'étudier, de méditer et d'appliquer ces enseignements dans notre vie. On ne saurait trop insister sur l'importance d'avoir un témoignage ferme et certain du Livre de Mormon. Nous vivons à une époque de difficultés importantes et de grande méchanceté. Qu'est-ce qui nous protégera du péché et du mal si répandu dans le monde actuel? J'affirme qu'un fort témoignage de notre Sauveur, Jésus-Christ, et de son Évangile contribuera à notre sécurité. Si vous ne lisez pas le Livre de Mormon chaque jour, je vous en prie, faites-le. Si vous le lisez dans la prière et avec le désir sincère de connaître la vérité, le Saint-Esprit vous manifestera son authenticité. S'il est vrai, et je témoigne solennellement qu'il l'est, alors Joseph Smith était un prophète qui a vu Dieu, le Père, et son Fils Jésus-Christ. Du fait que le Livre de Mormon est vrai, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est l'Église du Seigneur sur la terre, et la Sainte Prêtrise de Dieu a été rétablie pour le profit et le bien-être de ses enfants. Si vous n'avez pas un témoignage ferme de ces choses, faites le nécessaire pour en obtenir un. Il est essentiel que vous ayez votre témoignage en ces temps difficiles. Car les témoignages des autres ne vous porteront que jusqu'à un certain point. Néanmoins, une fois que vous en aurez obtenu un, il faudra le garder vivant par l'obéissance continuelle au commandement de Dieu et par la prière et l'étude quotidienne des Écritures. Mes chers compagnons dans l'œuvre du Seigneur, je supplie chacun d'entre nous d'étudier et de méditer le Livre de Mormon chaque jour à l'aide de la prière. Ainsi, nous serons en mesure d'entendre la voix de l'Esprit, de résister à la tentation, de vaincre le doute et la crainte, et de recevoir l'aide des cieux. J'en témoigne de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous vous aimons, Président Monson. Il y a un an et demi, le Président Nelson a parlé de la nécessité d'instruire et d'éduquer une génération qui résiste au péché. L'expression « une génération qui résiste au péché » a touché une corde sensible spirituelle en moi. Nous rendons hommage aux enfants qui s'efforcent de mener une vie de pureté et d'obéissance. J'ai été témoin de la force de nombreux enfants à travers le monde. Ils sont résistants, constants et immuables dans beaucoup de cadres et de situations difficiles. Ces enfants comprennent leur identité divine, ressentent l'amour de leur Père céleste et s'efforcent de faire sa volonté. Cependant, il y a des enfants qui peinent à rester constants et immuables et dont l'âme délicate est blessée. Ils sont attaqués de toutes parts par les traits enflammés de l'adversaire et ont besoin d'être renforcés et soutenus. Ils constituent pour nous une immense motivation à nous engager dans une guerre contre le péché et à tout faire pour amener nos enfants au Christ. Écoutez les paroles de Bruce McConkie prononcées il y a près de 43 ans. En tant que membres de l'Église, nous sommes engagés dans un grand conflit. Nous sommes en guerre. Nous nous sommes enrôlés dans la cause du Christ pour nous battre contre Lucifer. La grande guerre qui fait rage de toutes parts et fait malheureusement de nombreuses victimes, dont certaines meurent, n'a rien de nouveau. Nul n'est ni ne pourra être neutre au milieu de cette guerre. Aujourd'hui, la guerre se poursuit avec une intensité accrue. La bataille nous touche tous et nos enfants sont en première ligne face aux forces ennemies. Nous avons donc grand besoin de renforcer notre stratégie spirituelle. Fortifier nos enfants pour qu'ils deviennent résistants au péché constitue à la fois une tâche et une bénédiction pour les parents, les grands-parents, les membres de la famille, les instructeurs et les dirigeants. La responsabilité de leur venir en aide nous incombe à tous. Toutefois, le Seigneur a tout particulièrement commandé aux parents d'enseigner à leurs enfants à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit, et à prier et à marcher en droiture devant le Seigneur. La façon d'élever nos enfants dans la lumière et la vérité peut s'avérer être une question difficile, car elle doit être adaptée à chaque famille et à chaque enfant. Mais notre Père Céleste a donné des directives universelles qui nous aideront. Le Saint-Esprit nous inspirera pour que nous trouvions les manières les plus efficaces d'immuniser spirituellement nos enfants. Pour commencer, il est essentiel d'avoir une vision de l'importance de cette responsabilité. Nous devons comprendre notre identité et notre destinée divine, ainsi que celle de nos enfants, avant d'être en mesure de les aider à comprendre qui ils sont et pourquoi ils sont ici. Nous devons les aider à savoir, sans le moindre doute, qu'ils sont fils et filles d'un Père céleste aimant et qu'il a à leur égard des attentes divines. Deuxièmement, il est essentiel de comprendre la doctrine du repentir pour devenir résistant au péché. Être résistant au péché ne signifie pas être sans péché, mais implique d'être continuellement repentant, vigilant et vaillant. On devient résistant au péché pour avoir résisté de manière répétée au péché. Jacques a donné ce conseil avisé, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les jeunes guerriers étaient extrêmement vaillants dans leur courage, mais voici, ce n'était pas tout. Ils étaient fidèles en tout temps, dans tout ce qui leur avait été confié. Oui, on leur avait enseigné à garder les commandements de Dieu et à marcher en droiture devant lui. Ces jeunes hommes allèrent à la guerre, portant avec eux les vertus chrétiennes comme armes contre leurs adversaires. Le président Monson nous a rappelé que l'appel à être courageux est constamment lancé à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de courage chaque jour de notre vie, pas seulement pour les événements importants, mais plus souvent lorsque nous prenons des décisions ou réagissons à des situations proches de nous. Nos enfants se revêtent d'une armure spirituelle en adoptant des habitudes personnelles de disciples au quotidien. Nous sous-estimons peut-être la capacité qu'ont les enfants de comprendre le concept de disciple au quotidien. Le président Herring nous a conseillé de commencer tôt et d'être constant. Une troisième façon d'aider nos enfants à devenir résistants au péché est donc de commencer très tôt à leur instiller avec amour la doctrine de base de l'Évangile à partir des Écritures, des articles de foi, de la brochure « Jeunes, soyez forts », des chants de la primaire, des cantiques et de nos témoignages personnels qui les conduiront au Sauveur. L'établissement d'habitudes bien ancrées de prière, d'études des Écritures, de soirées familiales et de respect du jour de sabbat apporte de la plénitude, de la cohérence interne et des valeurs morales fortes, autrement dit, de l'intégrité spirituelle. Dans le monde d'aujourd'hui où l'intégrité a presque entièrement disparu, nos enfants méritent de comprendre ce qu'est la véritable intégrité et pourquoi elle est importante, tout particulièrement alors que nous les préparons à contracter et à respecter des alliances sacrées au moment du baptême et dans le temple. Comme l'enseigne prêcher mon évangile, en tenant leurs engagements, les gens, y compris les enfants, se prépare à contracter et à respecter des alliances sacrées. Jeffrey Holland a enseigné, « Quand nous parlons du respect des alliances, nous touchons à l'essence du but de notre condition mortelle. Il y a un pouvoir exceptionnel dans le fait de contracter puis de respecter des alliances avec notre Père Céleste. L'adversaire le sait et c'est pour cette raison qu'il a rendu obscur le concept de faire alliance. Aider nos enfants à comprendre, à contracter et respecter des alliances sacrées constitue une autre clé pour susciter une génération qui résiste au péché. Comment pouvons-nous préparer nos enfants à contracter et à respecter des alliances sacrées tandis qu'ils entrent et progressent sur le chemin de l'alliance? Si nous enseignons aux enfants à tenir des promesses simples lorsqu'ils sont jeunes, cela leur donnera la force de respecter des alliances sacrées plus tard dans la vie. Je vais vous donner un exemple simple. Au cours d'une soirée familiale, un père a posé la question suivante. Comment nous entendons-nous entre membres de la famille? Lizzie, 5 ans, s'est plainte que son grand frère, Kevin, la taquinait trop et que cela la blessait. Kevin a admis avec réticence que Lizzie disait vrai. La mère de Kevin lui a alors demandé ce qu'il pourrait faire pour mieux s'entendre avec sa sœur. Kevin a réfléchi, puis a décidé qu'il promettrait à Lizzie de ne pas l'embêter pendant toute une journée. Le lendemain, à la fin de la journée, toute la famille s'est réunie pour la prière et le père de Kevin lui a demandé comment cela s'était passé. Kevin a répondu « Papa, j'ai tenu ma promesse !» Lizzie a confirmé joyeusement. La famille a félicité Kevin. La mère de Kevin lui a alors suggéré que, puisqu'il avait pu tenir sa promesse une journée, il pourrait certainement le faire pendant 2 jours. Kevin a accepté de s'engager à nouveau. Les 2 jours ont passé et Kevin est parvenu à tenir sa promesse. Lizzie était encore plus reconnaissante quand son père lui a demandé pourquoi il tenait si bien ses promesses. Kevin a répondu « J'ai tenu ma promesse parce que j'avais dit que je le ferais ». Une succession de petites promesses bien tenues mène à l'intégrité. L'habitude de tenir leurs promesses constitue pour les enfants une préparation spirituelle en vue de recevoir leur première alliance du baptême et du don du Saint-Esprit, au cours de laquelle ils s'engagent à servir Dieu et à respecter ses commandements. Les alliances et les promesses sont inséparables. Dans le livre de Daniel, nous lisons l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui refusèrent d'adorer l'idole du roi Nebuchadnezzar. Le roi les avertit qu'ils seraient jetés dans une fournaise ardente s'ils n'obéissaient pas. Ils refusèrent et déclarèrent « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Sinon, réfléchissez au sens de ce mot en rapport avec le respect des alliances. L'obéissance de ces 3 jeunes gens ne dépendait pas de leur délivrance. Quand bien même ils ne seraient pas délivrés, ils tiendraient la promesse qu'ils avaient faite au Seigneur parce qu'ils avaient dit qu'ils le feraient. Le respect de nos alliances ne dépend jamais de notre situation. Ces 3 jeunes gens, tout comme les jeunes guerriers, constituent de merveilleux exemples de résistance au péché pour nos enfants. Comment ces exemples s'appliquent-ils dans notre foyer, à notre famille? Ligne sur ligne, précepte sur précepte, nous pouvons aider nos enfants à réussir petit à petit. Ils ressentiront l'esprit en tenant leurs promesses. Joseph Wersling a enseigné, « La récompense suprême de l'intégrité est la compagnie constante du Saint-Esprit. » Alors, l'assurance de nos enfants deviendra grande en la présence de Dieu. Du puits de l'intégrité jaillit une génération dotée de pouvoir et résistante au péché. Frères et sœurs, gardez vos petits près de vous, si près qu'ils observeront votre attitude chrétienne au quotidien et qu'ils vous verront tenir vos promesses et respecter vos alliances. Les enfants sont de grands imitateurs. Alors donnez-leur quelque chose de grand à imiter. Oui, nous aidons à instruire, à élever pour le Seigneur une génération qui résiste au péché, promesse après promesse, alliance après alliance. Je témoigne que Jésus-Christ dirige cette Église. Tandis que vous instruisez, guidez et aimez les enfants à la manière du Sauveur, vous pouvez recevoir la révélation personnelle qui vous aidera à forger et à armer des enfants vaillants et résistants au péché. Je prie pour que nos enfants fassent leur les paroles de Néphi. Veux-tu me rendre telle que je tremble à la vue du péché? Je témoigne que notre Sauveur a expié pour les péchés du monde, parce qu'il avait dit qu'il le ferait, et parce qu'il nous aime plus que nous, simples mortels, ne pourrons jamais le comprendre, parce qu'il a dit qu'il le ferait, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mon objectif est d'inviter les gens à aller au Christ. C'est aussi votre objectif. Nous pouvons l'atteindre en levant les yeux vers Jésus-Christ. J'ai été baptisé avec mes parents quand j'avais 16 ans. Mon frère cadet, Kyung Wan, qui avait 14 ans, s'est joint à l'église grâce à mon oncle Yong Jik Lee et nous y a invités. Chacun des 10 membres de notre famille appartenait à une église différente. Nous avons donc été heureux de trouver la vérité et nous avons voulu faire partager ce bonheur que nous avions trouvé dans l'évangile de Jésus-Christ après avoir été baptisés. Mon père était le plus heureux d'entre nous d'apprendre et de faire connaître la vérité. Il avait l'habitude de se réveiller tôt le matin pour étudier les Écritures pendant plus de 2 heures chaque jour. Après le travail, il allait avec les missionnaires rendre visite à notre famille, nos amis et nos voisins presque tous les jours. 7 mois après notre baptême, 23 personnes parmi ma famille et mes proches étaient devenues membres de l'Église. Cela fut suivi par le miracle de voir 130 personnes baptisées l'année suivante grâce aux efforts missionnaires de mon père. L'histoire familiale était aussi importante pour lui, et il a retrouvé 8 générations de nos ancêtres. Depuis ce jour, les fruits de la conversion de notre famille, en commençant par mon frère de 14 ans, ont augmenté de manière innombrable, non seulement parmi les vivants, mais aussi parmi les morts. Suite au travail de mon père et d'autres, notre arbre généalogique s'étend sur 32 générations et nous accomplissons maintenant l'œuvre du Temple pour de nombreuses branches. Aujourd'hui, je suis émerveillé et je ressens une grande joie à relier nos ancêtres et nos descendants. Président Hinckley a vécu une expérience similaire dans le Temple de Columbus en Ohio. Assis dans le temple, méditant sur la vie de mon arrière-grand-père, de mon grand-père et de mon père, j'ai regardé ma fille, puis sa fille, puis les enfants de celle-ci, qui sont mes petits arrière, mes arrière-petits-enfants. Soudain, je me suis rendu compte que j'étais le maillon central de ces 7 générations, 3 générations avant moi et 3 après moi. Dans cette maison sainte et consacrée, j'ai alors ressenti que j'avais l'obligation immense de transmettre tout l'héritage que j'avais reçu de mes ancêtres aux générations qui viennent après moi. Fin de citation. Nous sommes tous au milieu d'une famille éternelle. Notre rôle peut être un tournant décisif, où des changements importants peuvent se produire de façon positive ou négative. Le président Hinckley poursuit. Ne vous permettez jamais de devenir un maillon faible dans la chaîne de vos générations. Fin de citation. Votre fidélité dans l'Évangile affermira votre famille. Comment pouvons-nous nous assurer que nous serons un maillon fort dans notre famille éternelle? Un jour, quelques mois après mon baptême, j'ai entendu des membres se critiquer à l'église. J'étais très déçu. Je suis rentré chez moi et ai dit à mon père que peut-être je ne devais plus aller à l'église. C'était difficile de voir des membres en critiquer d'autres comme ça. Après m'avoir écouté, mon père m'a enseigné que l'évangile avait été rétabli et qu'il était parfait, mais que les membres ne l'étaient pas encore. Lui non plus et moi non plus. Il a dit fermement, ne perds pas ta foi à cause des gens autour de toi, mais édifie une relation forte avec Jésus-Christ. Ne regarde pas alentour, lève les yeux. Levez les yeux vers Jésus-Christ. Le sage conseil de mon père renforce ma foi quand j'ai des difficultés dans ma vie. Il m'a enseigné comment mettre en application les enseignements du Christ. Lorsque nous lisons ces paroles, tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées, ne doutez pas, ne craignez pas. Quand j'étais président de mission de Seattle, il pleuvait souvent. Mais nos missionnaires avaient pour instruction de sortir et de faire du prosélytisme même sous la pluie. Je leur disais, sortez sous la pluie, levez les yeux au ciel, ouvrez la bouche et buvez-la. Quand vous lèverez les yeux, vous recevrez la force d'ouvrir la bouche et de parler à chaque personne sans crainte. Cette leçon symbolique signifiait qu'ils devaient lever les yeux quand ils auraient des difficultés, même après leur mission. Ne le faites pas dans des régions polluées, s'il vous plaît. Quand je servais encore dans la mission de Seattle, j'ai reçu un appel téléphonique de mon fils aîné Sunbeam, qui est pianiste. Il m'a dit qu'il aurait l'honneur de jouer au Carnegie Hall de New York, car il avait gagné un concours international. Nous étions si heureux et ravis pour lui. Cependant, ce soir-là, pendant qu'elle priait avec reconnaissance, ma femme s'est souvenue que nous ne pourrions pas le rejoindre pour sa représentation et a dit en substance à notre Père Céleste, « Père Céleste, je suis reconnaissante de la bénédiction que tu as donnée à Sunbeam. En passant, je suis navrée de ne pas pouvoir assister au concert. J'aurais pu y aller si tu lui avais accordé cette bénédiction avant ou après notre mission. Je ne me plains pas, mais je ressens un peu de peine. » Dès qu'elle a eu fini sa prière, elle a entendu une voix distincte lui dire « Votre fils a reçu cet honneur parce que vous ne pouvez pas y aller. Préférerais-tu échanger ?» Ma femme a été surprise. Elle savait que les enfants seraient bénis du fait du service fidèle de leurs parents dans le royaume du Seigneur. Mais c'était la première fois qu'elle comprenait son rôle avec autant de clarté. Elle lui a immédiatement répondu « Non, non, ça me va de ne pas y assister. Laisse-le avoir cet honneur. » Chers frères et sœurs, il ne nous est pas facile de reconnaître l'amour de notre Père Céleste quand nous regardons alentour avec nos yeux temporels, parce que nous voyons tout d'abord les inconvénients, les pertes, les fardeaux ou la solitude. D'un autre côté, nous pouvons voir les bénédictions au-delà lorsque nous levons les yeux. Le Seigneur a révélé, et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance.
To all those who embark in any service of God, know that you are a solid connection for powerful blessings to those before you and to generations after you. Today, I am grateful to see that many of our family members are faithful on the covenant path, and am saddened to see imagine any empty seat next to us.
Russell Ballard a dit, si vous décidez de devenir non-pratiquant ou de quitter l'Église rétablie de Jésus-Christ des saints des derniers jours, où irez-vous? Que ferez-vous? La décision de ne plus marcher avec les membres de l'Église et les dirigeants choisis du Seigneur aura des répercussions à long terme qu'on ne peut pas toujours entrevoir maintenant. Président Monson nous a recommandé de toujours choisir le bien, ce qui est plus difficile que de choisir le mal. Il n'est jamais trop tard pour lever les yeux vers le Christ. Ses bras vous sont toujours ouverts. Il y a des générations avant et après nous qui dépendent de nous pour suivre le Christ afin que nous soyons une famille éternelle de Dieu. Quand j'ai été relevé de mon appel de président de Pieux, mes fils étaient heureux à l'idée de passer plus de temps avec moi. 3 semaines plus tard, j'ai été appelé 70. J'ai cru tout d'abord qu'ils seraient déçus. Mais l'humble réponse du plus jeune de mes fils a été « Papa, ne t'inquiète pas. Nous sommes une famille éternelle. » Quelle vérité simple et claire c'était. J'étais un peu inquiet parce que je regardais seulement autour de moi dans cette vie mortelle. Mais mon fils était heureux parce qu'il ne regardait pas alentour, mais levait les yeux vers l'éternité et vers les desseins du Seigneur. Il n'est pas toujours facile de lever les yeux quand vos parents sont opposés à l'Évangile, quand vous êtes membre d'une petite unité de l'Église, quand votre conjoint n'est pas membre, quand vous êtes encore célibataire après avoir fait de votre mieux pour vous marier, quand un enfant s'est égaré, quand vous vous retrouvez parent seul, quand vous avez des difficultés physiques ou émotionnelles, ou quand vous êtes victime d'une catastrophe, etc. Accrochez-vous à votre foi dans ces moments difficiles. Levez les yeux vers le Christ pour trouver la force, l'équilibre et la guérison. Grâce au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ, tout concourera à votre bien. Je rends témoignage que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Quand nous suivons notre prophète vivant, Thomas Monson, nous levons les yeux vers Jésus-Christ. Quand nous prions et étudions les Écritures chaque jour et prenons la Sainte Cène chaque semaine en toute sincérité, nous acquérons la force de toujours lever les yeux vers lui. Je suis heureux d'être membre de cette Église et de faire partie d'une famille éternelle. J'aime faire connaître cet Évangile merveilleux aux autres. Inviter les gens à venir au Christ est notre objectif. Et nous pouvons l'atteindre en levant les yeux vers Jésus-Christ. Je témoigne humblement de ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Elder Che.
Merci, Frère Che. Frères et sœurs, vous et moi pouvons constater l'accélération de l'œuvre du Seigneur à travers le président Monson et son message de ce matin. Président Monson, nous vous aimons, nous vous soutenons et nous prions sans cesse pour vous, notre prophète bien-aimé. Nous avons ressenti un grand déversement de l'esprit ces deux derniers jours. Que vous soyez présent ici, dans cette grande salle, ou que vous regardiez depuis votre foyer, ou assemblé dans les lieux de culte du monde entier, vous avez eu l'occasion de ressentir l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit confirme à votre cœur et à votre esprit les vérités enseignées lors de cette conférence. Rappelez-vous les paroles de ce cantique bien connu. Que l'Esprit soit avec nous, enseignant la vérité. Il témoignera du Christ, nous montrant sa volonté. La révélation moderne nous apprend que la divinité est composée de trois êtres séparés et distincts, notre Père céleste, son Fils unique, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Nous savons que le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Mais le Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'os. C'est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous. Mon message aujourd'hui traite de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Notre Père céleste savait que nous rencontrerions des difficultés, des tribulations et des crises dans la condition mortelle. Il savait que nous serions en butte aux doutes, aux déceptions, aux tentations et aux faiblesses. Pour nous apporter de la force morale et une direction divine, il nous a accordé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous lie au Seigneur. Conformément à sa mission divine, il nous inspire, nous témoigne, nous instruit et nous incite à marcher dans la lumière du Seigneur. Nous avons la responsabilité sacrée d'apprendre à reconnaître son influence dans notre vie et de la suivre. Souvenez-vous de la promesse du Seigneur. Je te donnerai de mon esprit ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie. J'aime cette affirmation. La joie qui emplit notre âme porte en elle une perspective éternelle qui contraste avec notre quotidien. Cette joie se manifeste sous forme de paix au milieu des épreuves et des peines. Elle apporte courage et réconfort, dévoile les vérités de l'Évangile et accroît notre amour pour le Seigneur et tous les enfants de Dieu. Pourtant, bien que le besoin de ces bénédictions soit grand, le monde, de bien des manières, les a oubliés et y a renoncé. Chaque semaine, lorsque nous prenons la Sainte Cène, nous faisons alliance de toujours nous souvenir de lui, le Seigneur Jésus-Christ, et de son sacrifice expiatoire. En respectant cette alliance sacrée, nous avons la promesse que nous aurons toujours son Esprit avec nous. Comment y parvenons-nous? Premièrement, nous nous efforçons de vivre de manière à être dignes d'avoir la compagnie de l'Esprit. Le Saint-Esprit accompagne ceux qui sont stricts à se souvenir de jour en jour du Seigneur leur Dieu. Comme le Seigneur l'a recommandé, nous devons délaisser les choses de ce monde et rechercher les choses d'un monde meilleur, car l'Esprit du Seigneur ne demeure pas dans des temples qui ne sont pas saints. Nous devons toujours nous efforcer d'obéir aux lois de Dieu, d'étudier les Écritures, de prier, de nous rendre au temple et de vivre en accord avec le 13e article de foi, à savoir d'être honnête, fidèle, chaste, bienveillant et vertueux, et de faire du bien à tous les hommes. Deuxièmement, nous devons être disposés à recevoir l'Esprit. Le Seigneur a promis, « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » J'ai commencé à le comprendre lorsque j'étais jeune missionnaire à Scotch Plains dans le New Jersey. Au cours d'une chaude matinée de juillet, mon compagnon et moi avons ressenti que nous devions prendre contact avec une personne qui nous avait été référée par Temple Square. Nous avons donc frappé à la porte de la famille d'Elwood Schaeffer. Madame Schaeffer nous a poliment renvoyés. Alors qu'elle fermait la porte, j'ai ressenti que je devais faire une chose que je n'avais jamais faite jusqu'alors et que je n'ai jamais refaite depuis. J'ai mis mon pied en travers de la porte. Et j'ai demandé, « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé par notre message ?» Sa fille de 16 ans, Marty, était effectivement intéressée et avait justement prié avec ferveur la veille afin d'être guidée. Nous avons commencé à rendre visite à Marty et au bout d'un certain temps, sa mère a pris part aux leçons. Elles se sont toutes les deux jointes à l'église. Suite au baptême de Marty, 136 personnes, dont de nombreux membres de sa famille, ont été baptisés et ont contracté les alliances de l'Évangile. Comme je suis reconnaissant d'avoir écouté l'Esprit et d'avoir mis mon pied en travers de la porte en cette chaude journée de juillet. Marty et plusieurs des membres de sa famille sont présents aujourd'hui. Troisièmement, nous devons reconnaître l'Esprit lorsqu'il se manifeste. Mon expérience est que l'Esprit communique le plus souvent par un sentiment. Vous le ressentez dans des mots qui vous sont familiers, que vous comprenez, et qui vous incitent à faire quelque chose. Pensez à la réaction des Néphites alors qu'ils écoutaient le Seigneur prier pour eux. Et la multitude entendit, et elle rend témoignage, et elle eut le cœur ouvert, et elle comprit dans son cœur les paroles qu'il dit dans sa prière. Les Néphites avaient ressenti dans leur cœur les paroles de sa prière. La voix du Saint-Esprit est un murmure doux et léger. Dans l'Ancien Testament, Élie lutte contre les prêtres de Baal. Les prêtres s'attendaient à ce que la voix de Baal descende comme l'éclair et enflamme leur sacrifice. Mais il n'y eut ni voix ni feu. Par la suite, Élie pria en disant, « Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. » Connaissez-vous cette voix? Le président Monson a enseigné, Et je cite, « Apprenons la langue de l'esprit, tandis que nous avançons sur le chemin de la vie. » L'esprit prononce des paroles que nous ressentons. Ces sentiments sont doux. Ils sont un encouragement à agir, à faire quelque chose, à dire quelque chose ou à réagir d'une certaine manière. Si nous sommes désinvoltes ou suffisants dans notre manière d'adorer, détournés et rendus insensibles par nos objectifs mondains, notre sensibilité s'en trouve diminuée. S'adressant à l'amant et Lémuel, Néphi a dit au sujet du Saint-Esprit, « Vous avez entendu de temps en temps sa voix, et il vous a parlé avec une petite voix douce. Mais vous aviez perdu toute sensibilité, de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles. » En juin dernier, je me suis rendu en Amérique du Sud pour m'acquitter d'une tâche. Nous avions un programme chargé de 10 jours dont le but était de visiter la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Un énorme tremblement de terre avait tué des centaines de personnes, blessé des dizaines de milliers d'autres et avait détruit et endommagé des maisons et des quartiers dans les villes de Porto Viejo et de Manta en Équateur. Et donc je me suis senti poussé à ajouter à notre programme une visite aux membres vivant dans ces villes. Les routes étaient si endommagées que nous n'étions pas certains de pouvoir nous y rendre. En réalité, on nous avait dit que nous ne pourrions pas nous y rendre. Mais ce sentiment ne me quittait pas. Alors finalement, nous avons eu la bénédiction de pouvoir visiter ces deux villes. Vu que nous n'avions prévenu de notre visite que tardivement, je ne m'attendais à voir que peu de dirigeants de la prêtrise à ces réunions organisées à la hâte. Mais dans chacun des centres de pieux où nous sommes allés, la salle de culte était pleine jusqu'au fond. Certains des membres étaient des piliers de l'Église dans la région, les pionniers qui s'étaient accrochés fermement à l'Église, encourageant les autres à se joindre à eux pour adorer et ressentir l'Esprit dans leur vie. Au premier rang étaient assis des membres qui avaient perdu des êtres chers et des voisins au cours du tremblement de terre. Je me suis senti poussé à donner une bénédiction apostolique à chacune des personnes présentes dans l'Assemblée. Je me tenais debout à l'avant de la salle, mais c'était comme si mes mains se posaient sur chacune de leurs têtes et j'ai senti les paroles du Seigneur sortir de ma bouche. Et ce n'était pas fini. J'ai ensuite senti que je devais leur parler tout comme Jésus-Christ l'avait fait lors de sa visite aux habitants des Amériques. Il prit leurs petits-enfants et les bénit et pria le Père pour eux. Nous étions en Équateur, nous nous occupions des affaires de notre Père et c'était ses enfants. Quatrièmement, nous devons agir dès la première impression. Souvenez-vous des paroles de Néphi. Et j'étais conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. Néanmoins, il a dit, je m'avançais. C'est ce que nous devons faire également. Nous devons avoir confiance en nos premières impressions. Parfois, nous cherchons à rationaliser. Nous nous demandons si nous ressentons une impression spirituelle ou s'il ne s'agit que de nos propres pensées. Et nous mettons en doute nos sentiments une fois, deux fois. Nous l'avons tous fait. Et nous rejetons l'esprit. Nous remettons en question les conseils divins. Joseph Smith, le prophète, a dit, si vous écoutez la première impression, vous serez dans le vrai 9 fois sur 10. Maintenant, un avertissement. Ne vous attendez pas à des feux d'artifice parce que vous avez répondu aux impressions du Saint-Esprit. Rappelez-vous, vous vous occupez des affaires du murmure doux et léger. Alors que j'étais président de mission à New York, je me trouvais dans un restaurant du Bronx avec quelques-uns de missionnaires. Une jeune famille est entrée et s'est assise près de nous. Ces gens avaient l'air parfaits pour l'Évangile. J'ai observé nos missionnaires, puis j'ai vu la famille terminer son repas et franchir la porte. Et j'ai dit alors, « Frère, il y a une leçon à retenir de ce qui vient de se passer. Vous avez vu une magnifique famille entrer dans ce restaurant. Qu'aurions-nous dû faire ?» L'un des missionnaires du groupe a répondu promptement, « J'ai pensé à me lever et aller leur parler. Quelque chose me disait de le faire, mais je n'ai pas réagi. » Frère, j'ai dit alors, nous devons toujours suivre notre première impression. Ce qui vous disait de le faire, c'était le Saint-Esprit. Les premières impressions sont de la pure inspiration des cieux. Lorsqu'elles nous confirment quelque chose ou nous en témoignent, nous devons les reconnaître pour ce qu'elles sont et ne jamais les laisser filer. Bien souvent, c'est l'Esprit qui nous inspire à tendre la main à quelqu'un dans le besoin, en particulier à des membres de notre famille ou à des amis. Ainsi, la petite voix douce qui chuchote et pénètre tout nous indique les occasions d'enseigner l'Évangile, de témoigner du rétablissement et de Jésus-Christ et d'offrir notre soutien et de secourir l'un des précieux enfants de Dieu. Pensez-y, comme à ce que l'on nomme les premiers secours. Dans la plupart des sociétés, ces premiers secours, suite à une tragédie ou une catastrophe, sont les pompiers, les policiers ou les ambulanciers. Ils arrivent avec leurs gyrophares et j'ajoute que nous sommes infiniment reconnaissants pour eux. La manière du Seigneur est moins évidente, mais elle exige une réaction tout aussi immédiate. Le Seigneur connaît les besoins de tous ses enfants et il sait qui est prêt à aider. Si dans nos prières matinales, nous faisons savoir au Seigneur que nous sommes prêts, il fera appel à nous pour répondre. Et si nous répondons, il fera de plus en plus souvent appel à nous et nous serons, comme le dit le président Monson, en mission pour le Seigneur. Nous serons les secours spirituels qui apportent l'aide d'en haut. Si nous prêtons attention aux impressions qui nous viennent, nous progresserons dans l'esprit de révélation et recevrons de plus en plus d'indications et de directives de l'Esprit. Le Seigneur a dit, « Place ta confiance en cet Esprit qui conduit à faire le bien. » Puissions-nous prendre au sérieux l'invitation du Seigneur à prendre courage, car il nous guidera le long du chemin. Il nous guide par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Puissions-nous vivre avec la compagnie du Saint-Esprit en répondant rapidement à nos premières impressions, sachant qu'elles viennent de Dieu. Et je vous témoigne que le pouvoir du Saint-Esprit nous guide, nous protège et nous accompagnera toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
L'assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter Vrais disciples du Seigneur, le numéro 27 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous écouterons Whitney Clayton de la présidence des 70. Il sera suivi de Dallin Hawkes du Collège des 12 apôtres. Après son discours, le chœur interprétera Chers enfants, sur vous Dieu veille. This is the 187th. Vous assistez à la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Le premier miracle que l'on connaît du Sauveur s'est passé lors des noces à Cana en Galilée. Marie, sa mère et ses disciples étaient présents. Marie semble s'être sentie responsable de la réussite de la fête. Pendant la réception, un problème se posa. Il n'y avait plus de vin. Marie, soucieuse, alla voir Jésus. Ils parlèrent brièvement, puis Marie se tourna vers les serviteurs et leur dit « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre. Ces vases n'étaient pas utilisés pour mettre de l'eau potable, mais ils servaient aux purifications cérémonielles de la loi de Moïse. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Puis l'ordonnateur du repas goûta l'eau changée en vin et exprima sa surprise que le meilleur vin eût été servi si tard. Cet événement reste dans nos mémoires, surtout parce que la transformation de l'eau en vin a été une démonstration du pouvoir de Dieu, un miracle. C'est un message important. Mais le récit de Jean contient un autre message important. Marie était un vase précieux et élu, appelé par Dieu pour mettre au monde et élever le Fils même de Dieu. Elle en savait davantage sur lui que quiconque sur la terre. Elle savait comment sa naissance s'était miraculeusement passée. Elle savait qu'il était sans péché, qu'il ne parlait pas comme les autres hommes, et qu'on ne pouvait pas non plus l'instruire, car il n'avait pas besoin que quiconque l'instruisît. Marie connaissait sa faculté extraordinaire de résoudre les problèmes, même un problème aussi personnel que de fournir du vin à une noce. Elle avait une confiance inébranlable en lui et en son pouvoir divin. L'instruction simple et directe qu'elle donna aux serviteurs ne contenait aucune réserve, aucune condition, aucune restriction. Faites ce qu'il vous dira. Marie était une jeune fille lorsque l'ange Gabriel lui apparut. Elle fut d'abord troublée qu'on lui dise « Je te salue ». Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Gabriel lui donna l'assurance qu'elle n'avait rien à craindre, car elle lui apportait une bonne nouvelle. Elle allait devenir enceinte et enfanter un fils qui allait être appelé le Fils du Très-Haut et régner sur la maison de Jacob éternellement. Marie se demanda à haute voix, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui donna une explication rapide, affirmant que rien n'est impossible à Dieu. Marie répondit humblement qu'elle ferait ce que Dieu lui demanderait, sans exiger de connaître les détails. Et malgré les nombreuses questions qu'elle devait très probablement se poser sur ce qui allait changer dans sa vie, elle s'engagea donc, sans comprendre exactement pourquoi il le lui demandait ou comment les choses allaient se passer. Elle accepta à l'avance la parole de Dieu de façon inconditionnelle, sans avoir la pleine connaissance de ce qui l'attendait. Par des paroles qui montraient une grande confiance et une grande foi en Dieu, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Lorsque nous prenons la décision de faire tout ce que Dieu nous dit, nous nous engageons fermement à aligner notre comportement quotidien sur la volonté de Dieu. Des actes de foi simples comme l'étude des Écritures, le jeûne régulier et la prière sincère creusent en profondeur notre puits de force spirituelle, permettant de répondre aux exigences de la condition mortelle. Avec le temps, les habitudes simples de foi produisent des résultats miraculeux. Grâce à ces actes, notre foi, encore à l'état embryonnaire, devient une force dynamique et bénéfique dans notre vie. Puis, lorsque des difficultés surviennent, notre enracinement en Christ affermit notre âme. Dieu supporte nos faiblesses, augmente notre joie et fait en sorte que tout concourt à notre bien. Il y a quelques années, je discutais avec un jeune évêque qui passait des heures chaque semaine à prodiguer des conseils aux membres de sa paroisse. Il a fait une constatation étonnante. Les problèmes que les membres de sa paroisse rencontraient n'étaient pas différents de ceux rencontrés par les membres de l'Église en général. La difficulté d'avoir un mariage heureux, de maintenir un équilibre entre le travail, la famille et les responsabilités dans l'Église, de respecter la parole de sagesse, des problèmes d'emploi ou avec la pornographie ou le désir d'être apaisé par rapport à une règle de l'Église ou une question historique non comprise. Il conseillait souvent aux membres de sa paroisse d'en revenir aux pratiques spirituelles de base, comme l'étude du livre de Mormon, le jeûne régulier, le paiement de la dîme et le service dévoué dans l'Église. Cependant, il rencontrait souvent des réactions sceptiques. Je ne suis pas d'accord avec vous, frère. Nous savons tous que ces choses sont bonnes. Nous en parlons tout le temps à l'Église. Mais je ne pense pas que vous me compreniez. Quel rapport y a-t-il entre ces choses et les problèmes que je rencontre? C'est une bonne question. Avec le temps, j'ai remarqué que les personnes qui sont déterminées à faire les choses petites et simples, c'est-à-dire à obéir dans les domaines qui semblent simples, reçoivent une foi et une force qui surpassent les actes d'obéissance eux-mêmes et peuvent sembler n'avoir aucun rapport avec eux. Il peut sembler difficile de voir le rapport entre les petits actes quotidiens d'obéissance et les solutions aux grands problèmes compliqués que nous rencontrons. Mais il y a un rapport. D'après mon expérience, le fait de suivre des petites habitudes spirituelles quotidiennes est le meilleur moyen de nous fortifier contre les difficultés de la vie, quelles qu'elles soient. Les petits actes de foi, même lorsqu'ils semblent insignifiants ou sans aucun rapport avec les problèmes spécifiques qui nous contrarient, nous sont bénéfiques dans tous les aspects de notre vie. Pensez à Naaman, chef de l'armée de Syrie, et un homme fort et vaillant, et lépreux. Une servante lui parla d'un prophète en Israël qui pouvait le guérir. Il entreprit donc le voyage pour Israël, escorté par des serviteurs et des soldats et avec des cadeaux, et arriva finalement à la maison d'Élisée. Le serviteur d'Élisée, et non Élisée lui-même, informa Naaman que le commandement du Seigneur était simplement de se laver 7 fois dans le Jourdain. Une chose simple. Peut-être ces instructions simples parurent-elles au puissant guerrier tellement illogiques, simplistes ou indignes de lui qu'il en fut offensé. Pour le moins, Naaman ne comprit pas les instructions d'Élisée, à tel point qu'il s'en retourna et partit avec fureur. Mais ses serviteurs l'abordèrent calmement et lui firent remarquer qu'il aurait fait quelque chose de difficile si Élisée le lui avait demandé. Ils lui demandèrent si, comme on lui avait demandé de ne faire qu'une chose simple, il ne devrait pas la faire, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Naaman changea sa façon de réagir et, probablement dans le doute, mais néanmoins soumis, descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain et fut miraculeusement guéri. L'obéissance peut donner des résultats immédiats. D'autres fois, ils ne viennent qu'après notre mise à l'épreuve. La perle de Grand Prix parle de la diligence d'Adam à respecter le commandement d'offrir des sacrifices. Apparemment pendant des années. Quand l'ange lui a demandé pourquoi il offrait des sacrifices, Adam lui dit « Je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. » L'ange expliqua que ces sacrifices étaient une similitude du sacrifice du Fils unique du Père. Mais cette explication ne vint qu'une fois qu'Adam eut montré son engagement à obéir au Seigneur pendant de nombreux jours, sans savoir pourquoi il devait offrir ce sacrifice. Dieu nous bénit toujours pour notre obéissance constante à son évangile et notre loyauté à son Église. mais il nous montre rarement à l'avance quand il va le faire. Il ne nous donne pas d'emblée la vision d'ensemble. C'est là que la foi, l'espérance et la confiance au Seigneur entrent en jeu. Dieu nous demande d'être patients, de lui faire confiance et de le suivre. Il nous supplie de ne pas contester parce que nous ne voyons pas. Il nous prévient que nous ne devons pas nous attendre à des réponses faciles ou à des solutions rapides venant d'en haut. Les choses s'arrangent lorsque nous sommes fermes pendant l'épreuve de notre foi. Aussi difficile qu'il soit de supporter la mise à l'épreuve ou aussi lente à venir que soit la réponse. Je ne parle pas d'obéissance aveugle, mais de confiance réfléchie en l'amour parfait et le calendrier parfait du Seigneur. L'épreuve de notre foi nécessitera toujours que nous restions fidèles aux habitudes quotidiennes simples de foi. Ce n'est qu'après cela que nous avons la promesse que nous recevrons la réponse divine à laquelle nous aspirons. C'est seulement lorsque nous avons prouvé que nous sommes disposés à faire ce que le Seigneur nous demande, sans exiger de connaître le quand, le comment et pourquoi, que nous récoltons les récompenses de notre foi, de notre diligence, de notre patience et de notre longanimité. La véritable obéissance est l'acceptation des commandements de Dieu, sans condition et à l'avance. Consciemment ou non, nous choisissons tous, chaque jour, qui nous voulons servir. Nous montrons notre détermination de servir le Seigneur en accomplissant avec fidélité des actes quotidiens de dévotion. Le Seigneur promet qu'il guidera nos pas. Mais pour qu'il puisse le faire, nous devons avancer avec la confiance qu'il connaît le chemin parce qu'il est le chemin. Nous devons remplir nos vases à ras-bord. Lorsque nous lui faisons confiance, notre vie se transforme comme l'eau en vin. Nous devenons plus et meilleur que ce que nous pourrions jamais être auparavant. Croyez en Dieu et faites ce qu'il vous dira. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Notre premier article de foi déclare « Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. » Nous rejoignons presque tous les chrétiens dans cette croyance en un Père, un Fils et un Saint-Esprit, mais ce que nous croyons à leur sujet diffère. Nous ne croyons pas en ce que le monde chrétien appelle la doctrine de la Sainte Trinité. Dans sa première vision, Joseph Smith a vu deux personnages distincts, deux êtres, ce qui montrait clairement que les croyances alors prédominantes concernant Dieu et la divinité n'étaient pas vraies. Contrairement au credo selon lequel Dieu est un mystère incompréhensible et impossible à connaître, nous croyons qu'il est possible de connaître la vérité au sujet de sa nature et de notre relation avec lui, et qu'elle est la clé de tout le reste de notre doctrine. La Bible rapporte la grande prière sacerdotale de Jésus, dans laquelle il a déclaré « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » L'effort pour connaître Dieu et son œuvre a commencé avant la condition mortelle et ne s'achèvera pas ici. Joseph Smith, le prophète, a enseigné, je cite, « Il faudra un bon moment après votre passage de l'autre côté du voile pour que vous ayez appris tous les principes de l'exaltation. » Fin de citation. Nous développons ici-bas la connaissance que nous avons acquise dans le monde des esprits prémortels. Ainsi, en essayant d'enseigner aux Israélites la nature de Dieu et ses rapports avec ses enfants, le prophète Ésaïe a déclaré « À qui voulez-vous comparer Dieu ? Et quelle image ferez-vous son égal ? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Fin de citation. Nous savons que les trois membres de la divinité sont des êtres séparés et distincts. Nous le savons du fait de l'enseignement donné à Joseph Smith, le prophète. Je cite, « Le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Mais le Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'os. C'est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous. » Fin de citation. Pour ce qui est de la position suprême de Dieu le Père au sein de la divinité, ainsi que des rôles respectifs de chacun, le prophète Joseph a expliqué, je cite, « Quiconque a vu les cieux ouverts sait qu'il s'y trouve trois personnages qui détiennent les clés du pouvoir et que l'un d'eux préside tout. Ces personnages sont appelés Dieu le premier, le Créateur, Dieu le second, le Rédempteur, et Dieu le troisième, le témoin. Le Père a le droit de présider en tant que chef ou président. Jésus est le médiateur et le Saint-Esprit est le témoin. » Fin de citation. Nous comprenons notre relation avec les membres de la divinité grâce à ce qui a été révélé sur le plan du salut. Des questions telles que « D'où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Et où irons-nous ?» trouvent leur réponse dans ce que les Écritures appellent le plan du salut, le grand plan du bonheur ou le plan de la rédemption. L'Évangile de Jésus-Christ est l'élément essentiel de ce plan. En tant qu'enfants d'Esprit de Dieu, dans une existence qui a précédé notre vie ici-bas, nous désirions la vie éternelle à laquelle nous sommes destinés, mais nous avions progressé autant qu'il était possible de le faire sans l'expérience de la condition mortelle dans un corps physique. Pour donner cette possibilité, notre Père Céleste présida à la création de ce monde où, privés de nos souvenirs de ce qui a précédé notre naissance, nous pourrions prouver notre volonté de respecter ses commandements, connaître les difficultés de la condition mortelle et progresser grâce à elle. Mais au fil de cette expérience ici-bas et en conséquence de la chute de nos premiers parents, nous subirions la mort spirituelle en étant retranchés de la présence de Dieu. Nous serions souillés par le péché et nous deviendrions sujets à la mort physique. Le plan du Père prévoyait et fournissait des moyens de franchir toutes ces barrières. Connaissant l'objectif du grand plan de Dieu, nous allons maintenant examiner les rôles respectifs des trois membres de la divinité dans ce plan. Commençons par un enseignement tiré de la Bible. Dans la conclusion de sa deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait en passant cette référence à la divinité, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou compagnie du Saint-Esprit soient avec vous tous. Fin de citation. Ce verset biblique représente la divinité et fait allusion à l'amour déterminant et motivant de Dieu le Père, à la mission miséricordieuse et salvatrice de Jésus-Christ et à la compagnie du Saint-Esprit. Tout commence avec Dieu le Père. Bien que nous en sachions relativement peu à son sujet, ce que nous savons est déterminant pour comprendre sa position suprême, notre relation avec lui, ainsi que son rôle de surintendant dans le plan du salut, la création et tout ce qui a suivi. Bruce R. McConkie a écrit juste avant sa mort, je cite, « Au sens ultime du mot, Il n'y a qu'un seul Dieu vrai et vivant. C'est le Père, le Tout-Puissant Elohim, l'Être Suprême, le Créateur et le Souverain de l'Univers. Fin de citation. Il est le Dieu et le Père de Jésus-Christ, ainsi que de nous tous. David O'Mackay a enseigné que la première vérité fondamentale prônée par Jésus-Christ était celle-ci. Derrière, devant et au-dessus de tout, il y a Dieu le Père, Seigneur des cieux et de la terre. Fin de citation. Ce que nous savons de la nature de Dieu, le Père, est principalement ce que le ministère et les enseignements de son Fils unique, Jésus-Christ, nous apprennent. Comme Jeffrey R. Holland l'a enseigné, l'un des objectifs premiers du ministère de Jésus était de révéler aux mortels qui est Dieu, notre Père éternel, nous révéler et nous faire connaître personnellement la véritable nature de son Père, notre Père céleste. Fin de citation. La Bible contient le témoignage d'un apôtre que Jésus était l'empreinte de la personne de son Père, ce qui précise simplement l'enseignement de Jésus lui-même, disant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dieu le Père est le Père de notre esprit. Nous sommes ses enfants. Il nous aime et tout ce qu'il fait est pour notre profit éternel. Il est l'auteur du plan du salut et c'est par son pouvoir que ce plan atteint son objectif pour la gloire finale de ses enfants. Pour les mortels, le membre de la divinité le plus visible est Jésus-Christ. Une grande déclaration doctrinale de la première présidence, faite en 1909, affirme qu'il est le premier-né de tous les fils de Dieu, le premier engendré dans l'esprit et le seul engendré dans la chair. Le Fils, le plus grand de tous, a été choisi par le Père pour exécuter le plan de ce dernier, exercer le pouvoir du Père afin de créer des mondes sans nombre et de sauver les enfants de Dieu de la mort par sa résurrection et du péché par son expiation. Ce sacrifice divin est en fait appelé l'acte central de toute l'histoire humaine. En ces occasions uniques et sacrées où Dieu le Père a présenté personnellement son Fils, il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est donc Jésus-Christ, en tant que Jéhovah, le Seigneur Dieu d'Israël, qui parle aux prophètes et par leur intermédiaire. C'est pour cette raison que, lorsque Jésus est apparu aux Néphites après sa résurrection, il s'est présenté comme étant le Dieu de toute la terre. C'est pour cette raison que Jésus parle souvent aux prophètes du Livre de Mormon et au sein des derniers jours comme étant le Père et le Fils. Titre expliqué dans l'exposé doctrinal inspiré de la première présidence d'il y a juste 100 ans. Le troisième membre de la divinité est le Saint-Esprit, aussi appelé l'Esprit-Saint, l'Esprit du Seigneur et le Consolateur. Il est le membre de la divinité qui est l'agent de la révélation personnelle. En tant que personnage d'esprit, il peut demeurer en nous et jouer le rôle essentiel de communicant entre le Père et le Fils et les enfants de Dieu sur la terre. De nombreuses Écritures enseignent que sa mission est de témoigner du Père et du Fils. Le Sauveur a promis que le Consolateur enseignerait toutes choses, nous rappellerait toutes choses et nous conduirait dans toute la vérité. Ainsi, le Saint-Esprit nous aide à discerner la vérité du mensonge, nous guide dans nos décisions importantes et nous aide à traverser les difficultés de la condition mortelle. Il est aussi l'instrument par lequel nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire purifiés du péché. Donc, en quoi la compréhension de cette vérité révélée des cieux au sujet de la divinité du plan du salut nous aide-t-elle à surmonter nos difficultés actuelles? Connaissant la vérité sur la divinité et notre relation avec elle, sur le but de la vie et sur la nature de notre destinée éternelle, nous avons la carte routière et l'assurance suprême pour notre voyage à travers la condition mortelle. Nous savons qui nous adorons et pourquoi nous adorons. Nous savons qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Nous savons qui rend tout cela possible et nous savons ce que nous devons faire pour jouir des bénédictions sublimes qui découlent du plan de salut de Dieu. Comment savons-nous tout cela? Nous le savons par les révélations que Dieu donne à ses prophètes et à chacun de nous individuellement. Atteindre ce que l'apôtre Paul décrit comme la mesure de la stature parfaite de Christ exige bien plus que l'acquisition de connaissances. Il n'est pas suffisant d'être convaincu de l'Évangile. Nous devons agir et penser de manière à y être convertis. Contrairement aux institutions du monde qui nous enseignent à connaître quelque chose, le plan du salut et l'Évangile de Jésus-Christ nous demandent de devenir quelqu'un. Comme le président Monson nous l'a enseigné lors de la dernière conférence générale, je cite, notre Sauveur Jésus-Christ est essentiel au plan du salut. Sans son sacrifice expiatoire, tout serait perdu. Il n'est pas suffisant, pourtant, de simplement croire en lui et en sa mission. Nous devons travailler et apprendre, chercher et prier, nous repentir et nous améliorer. Nous devons connaître les lois de Dieu et les vivre. Nous devons recevoir ses ordonnances salvatrices. Ce n'est qu'en le faisant que nous obtiendrons le bonheur véritable et éternel. Du plus profond de mon âme et en toute humilité, je témoigne du don merveilleux qu'est le plan du Père pour nous. C'est le chemin parfait qui mène à la paix et au bonheur ici et dans le monde à venir. J'ajoute mon témoignage à celui de notre prophète et président, au nom de Jésus-Christ. Je témoigne que nous avons un Saint-Esprit qui nous guide. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et qu'il rend tout possible. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Nous remercions le Mormon Tabernacle Choir de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours du président Uchtdorf, le chœur terminera cette réunion en chantant « Tout au sommet des monts ». Ensuite, Richard Maines, de la présidence des 70, fera la prière de clôture. Président Uchtdorf.
Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, quel honneur et quelle joie d'être rassemblés en tant qu'Église mondiale, unis par notre foi et notre amour pour Dieu. Je suis particulièrement reconnaissant de la présence de notre prophète bien-aimé, Thomas Monson, et du message qu'il nous a donné. Président, nous prendrons toujours à cœur vos conseils et vos paroles de sagesse. Nous vous aimons et vous soutenons, Président, et nous prions sans cesse pour vous. Il y a des années, alors que j'étais président du pieu à Francfort, en Allemagne, une sœur chère mais mécontente m'a abordé à la fin de l'une de nos réunions de pieu. Elle a dit, « N'est-ce pas scandaleux ? Il y avait au moins 4 ou 5 personnes qui étaient profondément endormies pendant votre discours. » J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu, « Je suis à peu près sûr que le sommeil à l'église est l'un des plus sains. » Ma femme, Harriet, a surpris cet échange, bon enfant, et a plus tard mentionné que c'était l'une des réponses les plus gentilles que j'avais jamais données. Il y a quelques centaines d'années, en Amérique du Nord, un mouvement appelé le Grand Réveil se répandit dans les campagnes. L'un des principaux objectifs était de réveiller les gens qui semblaient endormis au sujet des questions spirituelles. Le jeune Joseph Smith fut influencé par les paroles des prédicateurs qui faisaient partie de ce réveil religieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles il décida de s'enquérir sincèrement de la volonté de Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles il offrit cette prière personnelle. Les sermons de ces prédicateurs, dont le style était dynamique et émouvant, étaient connus pour leur insistance sur les terreurs des flammes de l'enfer qui attendent le pécheur. Leur discours n'endormait pas les gens, mais était peut-être la cause de quelques cauchemars. Leur objectif et leur schéma semblaient être d'effrayer les gens afin qu'ils aillent à l'église. Historiquement, la peur a souvent été un moyen de convaincre les gens d'agir. Des parents l'ont utilisé avec leurs enfants, des employeurs avec leurs employés et des politiciens avec les électeurs. Des spécialistes du marketing comprennent le pouvoir de la peur et l'utilisent souvent. C'est la raison pour laquelle certaines publicités semblent transmettre implicitement le message que si nous n'achetons pas leur marque de céréales pour petit déjeuner, ou si nous manquons le tout dernier jeu vidéo ou téléphone portable, nous courons le risque de mener une vie misérable et de mourir seul et malheureux. Nous sourions en entendant cela, et nous pensons que nous ne nous laisserions jamais piéger par une telle manipulation, mais quelquefois, c'est le cas. Pire, nous employons parfois des méthodes semblables pour convaincre les autres de faire ce que nous voulons. Mon discours a 2 objectifs aujourd'hui. Le premier est de nous inciter à réfléchir à la mesure dans laquelle nous utilisons la peur pour motiver les autres, y compris nous-mêmes. Le deuxième est de proposer une meilleure méthode. Parlons d'abord du problème avec la peur. Après tout, qui d'entre nous n'a jamais été contraint par la peur de manger plus sainement, d'attacher sa ceinture de sécurité, de faire davantage d'exercice physique, d'économiser de l'argent ou même de se repentir du péché? Il est vrai que la peur peut avoir une influence puissante sur nos actes et sur notre comportement. Mais cette influence a tendance à être temporaire et superficielle. La peur a rarement le pouvoir de changer notre cœur. Et elle ne nous métamorphosera jamais en personnes qui aiment ce qui est bien et qui veulent obéir à notre Père Céleste. Les gens craintifs peuvent dire et faire les bonnes choses, mais ils ne ressentent pas les bonnes choses. Ils se sentent souvent désarmés et amers, voire furieux. Avec le temps, ces sentiments conduisent à la méfiance, au mépris et même à la rébellion. Malheureusement, cette manière mal avisée de diriger ne se limite pas au monde profane. Cela me peine d'apprendre que des membres de l'Église exercent une domination injuste, que ce soit chez eux, dans leurs appels dans l'Église, au travail ou dans leurs interactions quotidiennes avec les autres. Souvent, les personnes peuvent condamner le harcèlement chez les autres tout en ne le voyant pas chez elles. Elles exigent qu'on se plie à leurs règles arbitraires, mais lorsque les autres ne respectent pas ces règles aléatoires, ces personnes les réprimandent verbalement, émotionnellement et parfois même physiquement. Le Seigneur a dit, lorsque nous exerçons avec quelque degré d'injustice que ce soit une domination ou une contrainte sur l'âme des enfants des hommes, les cieux se retirent et l'Esprit du Seigneur est attristé. Il peut y avoir des moments où nous sommes tentés de justifier nos actions en croyant que la fin justifie les moyens. Nous pouvons même penser que la domination, la manipulation et la dureté seront pour le bien des autres. Il n'en est rien, car le Seigneur a clairement dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Plus j'apprends à connaître mon Père Céleste, plus je vois comment il inspire et dirige ses enfants. Il n'est pas coléreux, vengeur ou vindicatif. Son dessein même, son œuvre et sa gloire est de nous guider, nous exalter et nous amener à sa plénitude. Dieu se décrit lui-même à Moïse comme étant miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. L'amour de notre Père Céleste pour nous, ses enfants, dépasse de loin notre entendement. Cela signifie-t-il que Dieu ferme les yeux sur les comportements qui vont à l'encontre de ses commandements ou qu'il les cautionne? Non, certainement pas. Mais il ne veut pas changer uniquement nos comportements. Il veut changer notre nature même. Il veut changer notre cœur. Il veut que nous tendions la main et nous agrippions fermement à la barre de fer, que nous affrontions nos peurs et que nous avancions et nous élevions courageusement sur le sentier étroit et resserré. C'est ce qu'il veut pour nous, parce qu'il nous aime et parce que c'est le chemin du bonheur. Alors, comment Dieu motive-t-il ses enfants à le suivre à notre époque? Il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous montrer le bon chemin. Dieu nous motive par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur et par l'amour sincère. Dieu est de notre côté. Il nous aime. Et il veut que, lorsque nous trébuchons, nous nous relevions, essayons de nouveau et devenions plus forts. Il est notre guide. Il est notre grande et précieuse espérance. Il désire nous stimuler par la foi. Il espère que nous tirerons des leçons de nos faux pas et ferons de bons choix. Voici la meilleure manière. L'une des manières dont Satan veut que nous manipulions les autres est en nous appesantissant sur le mal dans le monde et même en l'exagérant. Certes, notre monde a toujours été et continuera d'être imparfait. Beaucoup trop de personnes innocentes souffrent des aléas de la nature ainsi que de l'inhumanité de l'homme. La corruption et la méchanceté propres à nos jours sont alarmantes. Mais en dépit de tout cela, je n'échangerai pas ma vie à notre époque contre une autre époque de l'histoire du monde. Nous sommes bénis, au-delà de toute mesure, de vivre à une époque de prospérité, de lumière et d'avantages sans pareil. Par-dessus tout, nous sommes bénis d'avoir la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, ce qui nous donne une vision unique des dangers du monde et nous montre comment éviter ces dangers ou y faire face. Quand je pense à ces bénédictions, j'ai envie de tomber à genoux et d'adresser des louanges à notre Père Céleste pour son amour infini pour tous ses enfants. Je ne crois pas que Dieu veuille que ses enfants aient peur ou s'appesantissent sur les maux du monde, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous a donné une abondance de raisons de nous réjouir. Il suffit juste de les trouver et de les reconnaître. Le Seigneur nous rappelle souvent, « Ne craignez pas, prenez courage, et ne craignez donc pas, petit troupeau. » Frères et sœurs, nous sommes le petit troupeau du Seigneur. Nous sommes les saints des derniers jours. Notre nom sous-entend notre engagement d'attendre avec joie le retour du Sauveur et de nous préparer et préparer le monde à le recevoir. Par conséquent, servons Dieu et aimons notre prochain. Faisons-le avec une confiance naturelle et avec humilité, en ne méprisant aucune autre religion ni aucun groupe, quel qu'il soit. Frères et sœurs, il nous est commandé d'étudier la parole de Dieu et d'écouter la voix de l'Esprit afin de connaître les signes des temps et les signes de la venue du Fils de l'homme. Nous ne sommes donc pas ignorants des problèmes du monde et nous sommes conscients des difficultés de notre époque. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous imposer le fardeau de la peur constante ou l'imposer aux autres. Au lieu de nous apesantir sur l'immensité de nos difficultés, ne serait-il pas préférable de nous concentrer sur l'infinie grandeur, la bonté et le pouvoir absolu de Dieu en lui faisant confiance et en nous préparant le cœur joyeux pour le retour de Jésus le Christ? En qualité de peuple de l'Alliance, nous ne devons pas être paralysés par la crainte que de mauvaises choses se produisent. Au contraire, nous pouvons aborder avec foi, courage, détermination et confiance en Dieu les difficultés et les possibilités qui nous attendent. Nous ne sommes pas seuls pour parcourir le chemin du disciple. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Fin de citation. Face à la peur, rassemblons notre courage, mobilisons notre foi et faisons confiance à la promesse selon laquelle toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vivons-nous à une époque dangereuse et tumultueuse? Bien sûr que oui. Dieu lui-même a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pouvons-nous exercer la foi de croire et d'agir en conséquence? Pouvons-nous vivre à la hauteur de nos engagements et de nos alliances sacrées? Pouvons-nous respecter les commandements de Dieu, même dans les situations difficiles? Bien sûr que oui. Parce que Dieu a promis, tout concourra à votre bien si vous marchez en droiture. Mettons donc de côté nos craintes et vivons plutôt avec joie, humilité, espérance et une confiance résolue que le Seigneur est avec nous. Mes amis bien-aimés, mes chers frères et sœurs en Christ, si nous trouvons que nous vivons dans la peur ou l'anxiété, ou si nous trouvons que nos paroles, notre attitude ou nos actions engendrent la crainte chez les autres, alors réfléchissons, et je dis ces choses avec toute la sincérité de mon cœur, réfléchissons à cet antidote divinement désigné. L'amour pur du Christ, car l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait du Christ l'emporte sur la tentation de nuire, de contraindre, de harceler ou d'opprimer. L'amour parfait du Christ nous permet, en disciples de notre Sauveur bien-aimé, de marcher avec humilité, dignité, confiance et hardiesse. L'amour parfait du Christ nous donne la confiance de surmonter nos craintes et avoir une confiance absolue en la puissance et la bonté de notre Père Céleste et de son Fils, Jésus-Christ. Chez nous, sur notre lieu de travail, dans nos appels dans l'Église, dans notre cœur, remplaçons la crainte par l'amour parfait du Christ. L'amour du Christ remplacera la crainte par la foi. Son amour nous permettra d'avoir confiance et foi en la bonté de notre Père Céleste, en son plan divin, en son évangile et en ses commandements. L'amour de Dieu et de notre prochain convertira notre obéissance aux commandements de Dieu en bénédiction et non en fardeau. L'amour du Christ nous aidera à devenir un peu plus gentils, un peu plus indulgents, un peu plus attentionnés et plus dévoués à son œuvre. En emplissant notre cœur de l'amour du Christ, nous nous réveillerons avec une fraîcheur spirituelle renouvelée et nous marcherons avec joie, avec confiance, vivifiés et exaltés dans la lumière et la gloire de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Je témoigne avec l'apôtre Jean que la crainte n'est pas dans l'amour du Christ. Frères et sœurs, chers amis, Dieu vous connaît parfaitement. Il vous aime parfaitement. Il sait ce que vous réserve l'avenir. Il veut que vous ne craigniez pas, mais croyez seulement et demeuriez dans son amour parfait. C'est là ma prière et ma bénédiction. Au nom sacré de notre Sauveur, notre Maître, Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste bien-aimé, nous t'exprimons notre profonde reconnaissance ce matin pour le privilège et l'occasion d'avoir pu assister à cette session de conférence générale. Nous sommes reconnaissants, Père, pour la musique magnifique, pour les messages inspirants et édifiants qui ont été partagés par tes serviteurs. Et nous sommes tout particulièrement reconnaissants, Père, d'avoir pu entendre la voix d'un prophète. Nous aimons Président Monson. Nous sommes si reconnaissants pour ses conseils et l'invitation qu'il nous a lancée concernant le livre de Mormon et l'annonce de ses nouveaux temples. Nous l'aimons, nous le soutenons et nous l'honorons. Et nous prions pour son bien-être. Père, nous te prions afin que nous puissions être plus réceptifs aux influences, aux impressions de l'esprit dans notre vie, pour que nous puissions faire les bons choix qui nous permettront de mériter le royaume céleste. Nous t'aimons, Père, et aimons ton Fils. Nous prions pour ta gloire et pour la gloire de ton Fils. Et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à une session de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.